Chapitre 15. La moto qu'elle pilotait à présent était très différente de celle sur laquelle elle avait échappé à ses adversaires. Mais Jane se risqua pourtant à accélérer en direction du motel minable dans lequel elle avait laissé ses affaires la veille. Ses valises ne contenaient rien d'essentiel, mais elle n'avait pas le temps de s'offrir une nouvelle garde-robe ou de rendre visite aux trafiquants de Reseda chez qui elle se procurait habituellement des armes, des faux papiers, ainsi que les déguisements dont elle avait besoin pour rester en vie. Ses poursuivants avaient apparemment réussi à la retrouver grâce à l'Explorer, mais cela ne signifiait pas pour autant qu'ils avaient découvert son refuge. Ils n'auraient pas tenté de l'arrêter à sa sortie de la bibliothèque si tel avait été le cas. Ils se seraient contentés de l'attendre dans sa chambre de motel. La vallée de San Fernando, après avoir longtemps symbolisé le rêve californien, avait entamé son déclin. Le décor tiers-mondiste de ce quartier venait contredire l'image dorée que peinaient à conserver les villes côtières les mieux préservées. Les rues étaient crevassées de nids de poules, les parcs regorgeaient de détritus, des seringues usagées traînaient dans les caniveaux, des graffitis et des traces d'urine maculaient les murs et des SDF campaient dans les entrées des immeubles abandonnés, preuve de l'incompétence et de la corruption des édiles locaux. Le motel Comte Mouton était un établissement familial au crépi blanc fatigué dont les 16 chambres, réparties sur 2 niveaux, entourait une petite piscine aux revêtements fissurés. Une sirène et les poissons qui composaient sa cour, peints au fond du bassin, scintillaient sous une eau trouble. La chambre de Jane, la 3, se trouvait au rez-de-chaussée, près du bureau d'accueil. Le lieu paraissait calme. Elle gara sa moto le long du trottoir, à l'extrémité du pâté de maison, et glissa des pièces dans le parc-mètre. Le temps de récupérer son sac dans la sacoche, elle traversa la rue en retirant son casque et se dirigea vers un snack bar baptisé Lucky O'Hara's, dont la porte était surmontée d'une enseigne représentant une marmite d'or et un lutin. Il était 15h35. L'heure de la pause déjeuner était passée. 2 retraités solitaires étaient perchés sur des tabourets devant le comptoir en fer à cheval et l'un d'eux discutait à mi-voix avec le barman. Un jeune couple parlait avec animation dans l'un des box, derrière une série de tables inoccupées. Jane s'installa à celle qui se trouvait près de la fenêtre, ce qui lui permettait de surveiller le motel, de l'autre côté de la rue. À en juger par son nom, le Lucky O'Hara's avait sans doute appartenu à des Américains d'origine irlandaise, mais ce n'était plus le cas. La serveuse qui prit la commande de Jane, un double hamburger, des râpés de pommes de terre, des légumes, de la salade de choux crus et une bouteille de Corona, était une jolie blonde aux yeux noirs, dotée d'un fort accent bosniaque. La chope était glacée, la Corona aussi. Boire une bière à la bonne température était l'un des rares plaisirs qui contribuait à entretenir le moral de Jane en ces temps difficiles. Une douche bien chaude, l'un de ses airs préférés, le parfum d'un buisson de jasmin dans un jardin, et 1000 autres petites grâces étaient là pour lui rappeler combien elle avait été heureuse. En dehors de sa volonté farouche de protéger son fils et de lui offrir un avenir digne de ce nom, Jane entretenait l'espoir de goûter à nouveau un jour à une vie libre et heureuse. Tout en mangeant, elle observa le motel. Pas une camionnette en vue signalant une opération de surveillance. Aucune silhouette suspecte à l'intérieur des véhicules garés dans le voisinage. Quelques dizaines de mètres plus loin, emmitouflée dans plusieurs pulls en dépit de la douceur ambiante et une écharpe écossaise autour du cou, sa tignasse et sa barbe en bataille comme s'il avait été victime d'une électrocution, un clochard était assis sur le trottoir, adossé contre la façade d'un commerce à vendre. À côté de lui trônait un caddie rempli de sacs poubelles verts contenant ses trésors. L'homme aurait très bien pu être un observateur déguisé, et Jane l'observa avec méfiance jusqu'à ce qu'il se lève soudain, se glisse dans l'encoignure de la porte du magasin abandonné, baisse son pantalon et défèque. Jamais un agent fédéral n'aurait été aussi loin dans la vraisemblance. Des véhicules de toutes sortes circulaient dans les deux sens. Jane en arrivait presque à trouver suspecte cette normalité apparente aux abords du Comte Mouton. Des années au sein du FBI avaient fini par exacerber sa paranoïa, bien avant qu'elle n'entame sa cavale. À l'aide de sa cuillère, elle pêcha dans son verre d'eau des glaçons qu'elle déposa dans sa chope de bière, nettoya son assiette et demanda l'addition en commandant une autre Corona glacée, tout en jetant un coup d'œil à sa montre. 16h33. Elle régla son dû en y ajoutant 30% et tendit le tout à la serveuse, lorsque cette dernière lui apporta sa bière, de sorte qu'elle ne craigne pas de la voir partir sans payer si elle restait là plus longtemps.
« Ce salaud était censé arriver en même temps que moi, » expliqua-t-elle. « Si jamais il n'est pas là dans une heure, il ira se faire voir. »
La serveuse, dotée d'un cynisme acquis depuis son arrivée en Californie, à moins qu'elle n'y ait déjà pris goût en Bosnie, laissa échapper un ricanement.
« Laissez-le tomber, » conseilla-t-elle à Jane. « Je me dis toujours ça, mais je ne le fais jamais. » « Une fille comme vous, ce ne sont pas les occasions qui manquent. Pour l'instant, c'est encore le moins mauvais. »
« Ils passent bien trop de temps sur leurs jeux vidéo. »
« Qui donc ?» s'enquit Jane.
« Les mecs de cette génération. Les jeux vidéo, les sites porno, le net, ils n'ont plus le sens des valeurs. »
« Je suis bien d'accord. Le prince charmant est mort et enterré, » acquiesça Jane.
« Il n'est pas forcément mort. Je crois plutôt qu'il s'est perdu. À nous de le retrouver, mais on risque pas de lui remettre la main dessus si on cherche pas. »
« Vous avez peut-être raison. Vous continuez à chercher, vous ?»«
Je cherche, j'espère, je tente ma chance, sans jamais oublier d'emporter un couteau dans mon sac. »
« Vous avez vraiment un couteau dans votre sac ?»
La serveuse haussa les épaules. « À Los Angeles, on n'est jamais trop prudente. » Jane vida lentement sa bière au cours de l'heure qui suivit, sans oublier de surveiller le motel tout en feignant d'attendre son bon à rien de soupirant. Le clochard au caddie finit par aller se soulager ailleurs à mesure que les ombres s'allongeaient. La circulation se fit plus dense, comme s'il s'agissait de la seule avenue du monde, peuplée d'automobilistes pressés de poursuivre leur routine. De l'autre côté de l'artère, le comte Mouton paraissait plus inoffensif que jamais. Jane, consciente qu'hésiter conduisait inévitablement à l'échec, finit par quitter le snack. Elle gagna sa moto, fit le tour du pâté de maison, s'engagea sur le parking du motel et s'immobilisa devant la chambre 5, deux portes plus loin que celle où l'attendaient ses bagages. Tout était calme en apparence, et si quelqu'un observait ses faits et gestes, c'était à travers des rideaux à peine écartés. Elle retira son casque, le posa sur la selle de la Big Dog et se dirigea d'un pas décidé vers la 3. État d'alerte élevé, stade jaune, à l'affût du moindre bruit suspect. Elle introduisit la clé et poussa la porte qui s'enfonça dans la pénombre fraîche de la pièce, révélant les silhouettes ternes du mobilier. Avant de franchir le seuil, elle glissa la main droite sous son blouson et serra dans son poing la crosse du pistolet dans son étui. Elle jeta un coup d'œil prudent au parking, à l'avenue, au bureau d'accueil tout proche. Rien. Un vol de corbeau passa au-dessus de sa tête dans un silence inhabituel pour l'espèce, dessinant sur l'asphalte des ombres plus noires encore que leur propriétaire dans le ciel, comme pour l'encourager à fuir. Elle s'avança dans la chambre, referma la porte et alluma. La femme de ménage était passée. Le lit était fait et un parfum artificiel d'orange flottait dans l'air, qui dissimulait mal l'odeur rance de marijuana laissée par les occupants précédents. La porte de la petite salle de bain était grande ouverte, et la vitre dépolie de la fenêtre laissait passer suffisamment de lumière pour permettre à Jane de voir que personne ne se dissimulait dans un recoin. En apparence, rien n'avait changé depuis qu'elle avait pris possession de la chambre l'après-midi précédente. Elle éprouvait pourtant un sentiment de malaise qu'elle ne s'expliquait pas. Un double miroir coulissant permettait d'accéder au placard. En s'approchant, au lieu de regarder son reflet, elle observa la pièce derrière elle, comme si une menace invisible venue d'une autre dimension pouvait brusquement se matérialiser. Le grondement d'un moteur se fit entendre sur le parking du motel. Jane scruta la porte de la chambre dans le miroir. Le conducteur coupa le contact, une portière claqua, et Jane attendit. En vain. Elle fit coulisser un bâton du placard vers la droite, et le miroir glissa péniblement sur son rail rouillé. Ses deux valises avaient disparu. Elle fit glisser les deux portes vers la gauche. Le placard était vide de ce côté-là aussi. Elle tira le Heckler & Koch de son étui et se retourna. Même en la regardant à l'endroit, la pièce lui sembla étrangère, porteuse d'un message inquiétant. La fenêtre de la salle de bain était trop étroite pour qu'elle puisse s'échapper par là. La porte de la chambre était la seule issue possible. Des rideaux occultants bouchaient la fenêtre voisine de la porte. Elle ne gagnerait rien à écarter le tissu graisseux dans l'espoir de voir ce qui l'attendait à l'extérieur. Quel que soit l'ennemi, elle allait devoir l'affronter. Son pistolet au poing, mais dissimulé sous le blouson, elle ouvrit la porte. La lumière du soleil l'obligea à plisser les paupières. Elle franchit le seuil. La moto avait disparu. À sa gauche, devant la chambre 1, sous un palmier famélique, elle reconnut l'Explorer Sport gris métallisé qu'elle avait abandonné sur le parking de la bibliothèque. Aucune des deux issues du parking n'était bloquée. Pas un flic en vue, pas un agent fédéral en civil. Tout sonnait faux, à la façon d'un décor de film. Dans le monde qui était en train de naître, la réalité virtuelle prenait fréquemment le pas sur le réel. La plupart des gens, subjugués par les techniques de pointe, ne comprenaient pas à quel point celle-ci était synonyme d'oppression, alors que Jane avait pleinement conscience de la face la plus sombre du système. La culture ambiante était radicalement différente de tout ce qu'avait pu vivre l'humanité jusque-là. Hommes et femmes se trouvaient réduits à l'état d'objets faciles à manipuler, balkanisés dans des univers fermés en fonction de leurs goûts et dégoûts. Des voitures aux barres chocolatées, tout était soumis au diktat du marketing. La vie privée n'existait plus. On privait les individus de toute possibilité de penser autrement, de censurer la vision du monde proposée par Internet, conformément aux avis d'une élite autoproclamée. Dans ce monde nouveau faisaient irruption quotidiennement des moments tels que celui-là, en face du Lucky O'Haras, avec son lutin souriant et sa marmite pleine d'or. Des situations irréelles donnant le sentiment que le monde avait perdu la raison. Un homme était assis sur le siège passager de l'explorer de Jane. L'ombre du palmier, en s'étalant sur le pare-brise, empêchait de distinguer son visage. Jane s'approcha de la porte du conducteur, le pistolet à l'extrémité de son bras droit tendu le long de sa cuisse. La vitre était descendue, de sorte qu'elle put enfin voir celui qui l'attendait. Il s'agissait de Vikram Rainkar, du FBI.